Alors je vais lire le texte, donc le troisième texte. Daniel Borillo, c'est un juriste qui donc a beaucoup travaillé sur la revendication des droits homosexuels, et notamment par ce biais qui est la lutte contre l'homophobie. Je reviendrai sur ce paradigme de l'homophobie un peu plus tard. Mais aujourd'hui, le familialisme d'État, dans les grandes démocraties libérales occidentales, passe en grande partie par la lutte contre l'homophobie. Et un des grandes applications de la théorie du genre, c'est la lutte contre l'homophobie. La lutte contre l'homophobie, c'est-à-dire en fait la lutte contre l'hétérosexisme. Bon. Donc évidemment, avec l'idée, hein, je vous ai parlé tout à l'heure du sexisme, finalement, on pourrait faire cette analogie, ce que la misogynie est au sexisme, l'homophobie l'est à l'hétérosexisme. J'explique. La misogynie, c'est une sorte d'attitude personnelle qui consiste à mépriser, dans le cas d'un homme, une femme. Donc, la misogynie, ça renvoie à, par exemple, tel ou tel geste méprisant, telle ou telle insulte, telle ou telle blague qui manifeste le caractère inférieur de la femme. Le sexisme, c'est pas quelque chose de personnel. Le sexisme, c'est une idéologie dans cette optique. C'est une représentation sociale dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, les femmes sont vues comme inférieures aux hommes, en tout cas tellement différentes que certaines choses leur sont spécifiquement réservées, etc. Donc, si vous voulez combattre la misogynie de manière efficace, vous devez combattre la base arrière de la misogynie, qui est le sexisme. Et la théorie féministe a pris comme angle d'attaque la critique du sexisme. D'accord ? Donc il faut travailler en amont. Parce que si vous ne travaillez pas en amont, si vous restez simplement dans la lutte contre la misogynie, vous gardez en fait les cadres d'infériorisation de la femme, et donc, si vous voulez, c'est comme vouloir, je sais pas, éponger de l'eau qui coule. Vous avez une fuite d'eau et vous passez votre journée à éponger sans essayer d'enlever supprimer la fuite d'eau. Au lieu de fermer le robinet, vous passez la journée à éponger. On va dire, tu sais, avant d'éponger, ce serait bien que tu fermes le robinet, puis après tu vas éponger. Bon. Ah non, moi je me concentre, on m'a dit d'éponger, donc moi j'éponge, je passe ma... Bon, c'est absurde. Donc, pour lutter adéquatement contre la misogynie, il faut faire une critique du sexisme. Eh bien, l'homophobie, c'est comme la misogynie. Dans cette optique, l'homophobie, c'est des actes méprisants, voire des insultes, voire des actes violents envers des personnes homosexuelles. Mais si vous voulez critiquer l'homophobie, vous voyez l'analogie, hein. Il faut remonter en amont de l'homophobie. C'est-à-dire les cadres mentaux, les cadres sociaux, les cadres juridiques qui considèrent la sexualité homosexuelle comme inférieure ou inférieure à la conception hétérosexuelle, ou qui considèrent l'homosexualité comme déviante et non pertinente pour la vie sociale. Et donc, la lutte contre l'homophobie, qui est souvent dans certains États promue par les ministères qui touchent l'instruction ou l'éducation, la lutte contre l'homophobie ne peut être efficace que si elle est une lutte contre l'hétérosexisme. Et là, on touche évidemment un point essentiel. La lutte contre l'hétérosexisme, c'est donc la lutte contre une compréhension de la sexualité humaine, vue à partir de la différence sexuelle, elle-même comprise dans sa dimension procréative. Et là, vous voyez que la lutte contre l'homophobie est d'une certaine manière le cheval de Troie, le cheval de Troie, d'une lutte pour changer la manière dont les sociétés et les êtres humains vont se représenter leur propre sexualité, évidemment. Parce que si l'hétérosexisme, il est dans notre tête, et s'il s'agit de nier l'hétérosexisme, c'est pour le remplacer par quoi ? C'est pas pour le remplacer par l'homosexualité. Ça. Le but des théories de critique de l'hétérosexisme, ce n'est pas, on pourrait dire, l'homosexualisme, ou je sais pas comment dire ça. Bon. Non, c'est justement promouvoir une vision indifférenciée de la sexualité. Une vision dans laquelle la sexualité est vue comme un matériau d'une construction artistique, d'une esthétique de l'existence. Ce qui tombe bien, puisque justement la médecine actuelle, de plus en plus, rend possible cette compréhension artistique et ludique de la sexualité. Alors, je reviens maintenant donc au texte numéro 3 donc de Borrillo. Je parlais de lui parce que il est donc un des grands, un des artisans de cette analyse de l'homophobie et de ce qu'elle présuppose. Alors, ce texte est un modèle du genre pour comprendre la manière dont, de plus en plus, la sexualité est vue comme totalement déterminée par la liberté de l'individu. Et comme quelque chose qui va de soi, et que si on n'est pas d'accord avec cette idée, on est forcément antidémocrate. Donc je trouve que c'est un modèle du genre, c'est pour ça que je vais le lire précisément et l'expliquer, parce que en fait, ce à quoi on va être confronté de plus en plus dans cette session, c'est à la puissance du langage. On va étudier beaucoup le langage. Et notamment l'usage du langage qu'on appelle la rhétorique. Judith Butler, dont on travaillera attentivement quelques textes plus tard, cet après-midi et demain, Judith Butler, donc, est, on pourrait dire, la papesse de la théorie du genre aux États-Unis, papesse entre guillemets, ou la grande prêtresse, si vous voulez, de la théorie du genre. Judith Butler, à l'origine, elle est professeure de rhétorique et de littérature comparée. En fait, c'est une philosophe, mais à l'origine, elle est professeure de rhétorique. Et la rhétorique, c'est l'art, comme par hasard, c'est un art, hein, c'est l'art d'apprendre à parler pour influencer les affects, pour faire passer quelque chose. La rhétorique, hein, a été théorisée par Aristote il y a 2500 ans, et elle est un des aspects importants de la vie humaine, et notamment de la vie politique. Mais je dis ça parce que la rhétorique, elle est omniprésente dans les textes qu'on va lire, parce que l'enjeu, évidemment, est de changer la disposition de celui qui écoute. Un des enjeux de la rhétorique, c'est de retourner l'auditoire. Quelqu'un qui est doué en rhétorique, il est capable, comme on dit, d'enflammer une salle, de créer un enthousiasme. C'est-à-dire de peu à peu disposer autrement son auditoire. Par la manière de parler, par la manière de choisir les mots, par les liens qu'il fait. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, certaines propositions sont de plus en plus inaudibles. Et pourquoi sont-elles inaudibles ? Parce que justement, elles vont contre des manières de penser qui semblent aller de soi. Alors évidemment, quand nous avons une proposition qui apparaît inaudible à notre auditoire, on a l'impression d'apparaître comme un dinosaure ou un être tombé du ciel. Et si on n'a pas conscience de ce décalage, bah, si vous voulez, on, on court au fiasco, si vous voulez. Et un des enjeux ici, évidemment, c'est peu à peu de comprendre et de décrypter de l'intérieur ce qui fait que une bonne partie de ce que vous apprenez pendant votre année apparaît comme inaudible à beaucoup de nos contemporains. Mais pour comprendre pourquoi ce que vous apprenez ici est en partie inaudible pour beaucoup de nos contemporains, bah, il faut savoir, justement, les cadres mentaux qui, justement, rendent soit inaudible, soit irrecevable ce que nous avons à leur dire. Et la théorie du genre, justement, pour ça que je parlais de guerre tout à l'heure, justement la théorie du genre a su, de manière extrêmement fine, stratégiquement et rhétoriquement, a su justement peu à peu subvertir la manière de regarder ces questions qui touchent la sexualité, le corps sexuel, la différence sexuelle.